Les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Quand on aime, on donne sans compter. Et quand on sait que plus des deux tiers du vocabulaire anglais vient du français ou du latin, que le mushroom anglais est en fait le mousseron français assaisonné à la mode anglaise et que le bol français est à l'origine le bowl anglais prononcé à la française, on comprend alors qu'entre ces deux langues, c'est une véritable histoire d'amour qui a commencé il y a plusieurs siècles et qui dure. Bien sûr, les peuples ont connu tour à tour une guerre de 100 ans ou une entente cordiale, mais les langues de leur côté ont constamment mêlé leurs mots pour donner parfois naissance à des faux amis, voire bien souvent aussi à de nombreux bons amis. Il y en a plus de 3000 dont la forme graphique est parfaitement identique dans les deux langues, parmi lesquelles anecdotes, caricatures, garage, horizon, jaguar, moustache, silicone, structure, unique. C'est l'histoire peu commune de deux langues voisines et néanmoins amies qu'Henriette Walter compte ici en parallèle, au fil de multiples traversées de la Manche dans les deux sens, interrompues par un grand voyage à la conquête du Nouveau Monde. En revivant cette aventure sentimentale au pays des mots, ponctuée d'une foule d'exemples, de jeux insolites et de piquantes anecdotes, on découvre que l'érudition n'est pas forcément ennuyeuse et que l'on peut apprendre tout en s'amusant. Et honni soit qui mal y pense. Henriette Walter est professeure émérite à l'Université de Haute-Bretagne, directrice du laboratoire de phonologie à l'École pratique des hautes études et membre du Conseil supérieur de la langue française. Linguiste de terrain, elle a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels « Le français dans tous les sens »,« Des mots sans culotte », Dictionnaire des mots d'origine étrangère avec Gérard Walter, L'aventure des langues en Occident, L'aventure des mots français venus d'ailleurs, Le français d'ici, de là, de là-bas, Dictionnaire du français régional de Haute-Bretagne avec Philippe Blanchet. Je m'appelle Cynthia Lissa Dubé et je vais vous lire le préambule de « On y soit qui mal y pense » de Henriette Walter. Depuis bientôt 1000 ans, la langue française a eu des contacts si fréquents, si intimes et parfois si passionnels avec la langue anglaise qu'on est tenté d'y voir comme une longue histoire romanesque où se mêlent attirances et interdits, et où les premiers héros ont des noms qui sont plus célèbres dans l'histoire tout court que dans l'histoire des langues, comme, par exemple, Guillaume le Conquérant ou Jeanne d'Arc. Ces deux personnages emblématiques ont pourtant leur place dans une histoire de ces deux langues, car, sans le vouloir, ils ont orienté leur destin. En effet, avec l'arrivée de Guillaume de Normandie et de ses barons en Angleterre au milieu du XIe siècle, c'est la langue venue de France qui s'est imposée comme la langue de la cour d'Angleterre. Dieu est mon droit. De sa noblesse, on y soit qui mal y pense, et de son administration, reléguant l'anglo-saxon dans les usages populaires et sans prestige. Le français avait ainsi conquis ses lettres de noblesse en Angleterre, comme il l'avait fait en France, et cette situation se prolongera durant 300 ans, pendant lesquels le français est resté la langue phare en Angleterre. C'est seulement au milieu du XIVe siècle que l'anglais commence à s'imposer à son tour, et l'action de Jeanne d'Arc aura pour conséquence de mettre, quelques décennies plus tard, un point final à la prépondérance du français de l'autre côté de la Manche. en boutant les Anglais hors de France, Jeanne d'Arc avait du même coup fait perdre à la langue française les chances d'expansion mondiale que l'anglais connaîtra beaucoup plus tard. Et l'on peut se demander ce qu'il serait advenu du destin de ces deux langues si l'intervention de Jeanne d'Arc n'avait pas eu lieu. Car le roi d'Angleterre, Henri V, qui était déjà comte du Maine, duc de Normandie et de Guyenne, aurait été couronné à Reims et serait aussi devenu roi de France en lieu et place du petit dauphin, fils du roi de France Charles VI et modeste roi de Bourges. Le français aurait ainsi pu devenir la langue des deux pays réunis en un seul royaume. Sur le plan de la politique linguistique, on pourra toujours argumenter et contester le rôle négatif de la pucelle d'Orléans, mais l'histoire conjointe du français et de l'anglais semble en tout cas s'arrêter net après Jeanne d'Arc. En fait, elle ne faisait que commencer. Mais il faut alors quitter l'histoire externe des langues pour entrer dans le domaine de leur structure interne. L'anglais se laisse envahir. La langue anglaise, avant la conquête normande, avait tous les caractères d'une langue purement germanique. Elle était arrivée avec le flot des envahisseurs venus du continent au milieu du 5e siècle et avait supplanté les idiomes celtiques précédents dans un pays qui avait déjà connu pendant 4 siècles l'occupation romaine. Cette langue germanique de l'Ouest avait ensuite été fortement influencée par les apports scandinaves venus du Nord à la faveur de l'invasion des Vikings, qui avaient même régné sur une grande partie du pays pendant près de 200 ans. Plus tard, c'est un bouleversement complet que l'on constate dans cette langue d'origine germanique après les 3 siècles qui séparent la venue des Normands de l'épisode de Jeanne d'Arc. L'anglais ressemble alors étrangement au français, car des masses de mots français avaient si bien pénétré en anglais qu'ils font aujourd'hui encore de l'anglais la plus latine des langues germaniques. Une longue histoire à épisode. Les contacts entre les deux langues, intimes à partir du milieu du 11e siècle, semblent remonter bien plus loin dans le temps si l'on se souvient que, de part et d'autre de la Manche, les lieux où sont nés l'anglais et le français ont connu les mêmes envahisseurs, les Celtes, puis les Romains, puis les premiers Germains, et enfin d'autres populations germaniques venues du Nord, les Vikings. En quelque sorte, une rencontre virtuelle avant la vraie rencontre et qui constitue l'objet des 5 premiers chapitres de cet ouvrage. Avant la rencontre historique, l'apport celtique, l'apport des Romains, invasion germanique, la langue des Vikings. Le 6e chapitre, qui s'intitule « 3 siècles d'intimité », montre l'attrait vivifiant qu'a exercé le français sur la langue anglaise en donnant souvent naissance à des mots trompeurs, les faux amis, mais aussi à des masses de bons amis. Ces bons amis ont été regroupés au milieu du livre sous la forme d'un pseudo-dictionnaire, repérable grâce à un filet gris visible sur la tranche de l'ouvrage. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et il faudra bien reconnaître que cette histoire d'affinité entre les deux langues n'a pas été sans heurts, 1 siècle d'hostilité. Les deux langues se développent alors selon des voies séparées, 2 langues qui s'affirment, mais elles se retrouveront bientôt sous d'autres cieux. À la découverte du Nouveau Monde, l'anglais prend le large, le français prend le large. Il est alors temps de retrouver l'histoire des deux langues sur leur lieu de naissance, le temps des grands dictionnaires, et de constater qu'un retournement de tendance s'amorce. C'est alors le français qui, surtout à partir du 18e siècle, se sent irrésistiblement attiré par l'anglais. Une passion qui a mis des siècles à se manifester, mais qui n'est au fond qu'un juste retour des choses. De son côté, l'anglais est devenu un moyen de communication privilégié dans le monde moderne où l'on constate en même temps l'émergence d'un vocabulaire de portée internationale, mondialisation et vocabulaire, et dont la base, peut-être en témoignage de cette histoire d'amour séculaire, est constitué en très grande partie par la langue qui est à l'origine du français, le latin, une langue que l'on croyait morte. Avec ses quatre index permettant de retrouver les mots, les gens et les lieux rencontrés au cours de cette histoire, avec ses encadrés récapitulatifs ou anecdotiques, avec ses cartes qui invitent au voyage et ses récréations faites pour se détendre un peu, cet ouvrage se voudrait aussi un témoignage d'amour pour les deux langues qui en sont les héroïnes et un plaidoyer pour leur enrichissement réciproque.
Les Chuchoteurs, du livre au cœur, est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Merci à nos partenaires la MRC des Pays d'en haut et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés qui ont rendu possible sa production.